Bonjour Costa Cavras.
Bonjour.
Pourquoi on va continuer à parler de Trabe? Tout simplement parce que parmi tous vos films, parmi ceux qu'on adore, il y en a un qui se passe dans un train, c'est Compartiment tueur, et c'est un film de 1965, vous en souvenez. Catherine, il y avait Signoret, et il y avait également Trintignant, et évidemment Yves Montand, on en écoute un extrait.
Je me suis trouvé égaré dans cet amphithéâtre, dans ce grand théâtre vide. C'est là, si loin et si proche. Comme un Hamlet. Comme un Hippolyte. Et mon cœur a battu la chamade. Et mon âme en lambeaux au bord du précipice de sa misère a poussé un cri de joie. Je ne le savais pas encore, mais la plus belle partie de ma vie allait commencer. Tu m'as dit avec ta voix voilée, la salle d'attente est à côté, vous savez.
Compartiment tueur avec évidemment Simone Signoret. Vous les décrivez d'ailleurs dans vos mémoires, car vous publiez vos mémoires, Costa Cavras, Va où il est impossible d'aller. C'est aux éditions du Seuil. Vous rappelez notamment sa voix particulière, votre première rencontre avec elle, avec Montand qui faisait du piano à côté, qui s'engueulait d'ailleurs. Parce que,
voilà, avec son pianiste.
Bon, son pianiste et bon, qui vous a obligé à sortir pour aller au restaurant d'à côté.
Oui, parce que quand je suis arrivé la première fois chez eux, j'ai entendu des gens qui s'engueulaient, Montand engueulait quelqu'un d'une manière extraordinaire. Je me suis dit, il faut que je parte. Et puis la porte s'est ouverte, et il m'a dit bonjour. Et puis il était son pianiste, Bob Castella, qu'il était en train d'engueuler pour une note, pour je ne sais pas quoi. Et ça s'est passé très bien. C'était une grosse engueulade. Non, le film, il y avait, vous avez dit Simone Signoret, il y avait Jacques Perrin, il y avait Trintignant, il y avait le grand... Plein d'acteurs comme ça, Piccoli, etc., qui étaient formidables.
Trintignant était l'amant de Simone Signoret.
L'amant de Simone Signoret. En même temps, il avait une vie un peu particulière dans le film.
Oui.
Et puis, il y avait aussi d'autres acteurs qui ont accepté de faire des petits rôles pour être dans cette aventure. Et ça a été vraiment, pour un premier film, quelque chose d'exceptionnel. Alors, compartiment tueur, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait dans les trains des compartiments fumeurs. Et l'auteur Jacques Prizot a décidé, parce qu'il y a beaucoup d'assassinats, se passent dans le train. Il a appelé compartiment tueur.
C'est très cinématographique, un train.
Très cinématographique. Surtout les trains à vapeur, comme il y en avait encore à l'époque. Et c'était, quand on arrivait dans la gare se remplissait de vapeur et de fumée parfois. Et c'était assez étonnant. Et puis, ça sifflait d'une manière particulière, etc. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus pratique, ça va plus vite, ça... C'est aussi très beau aujourd'hui. Quand on les voit passer, on dirait des grands serpents qui traversent la campagne d'une manière extraordinaire.
On s'est dit qu'on allait vous faire un clin d'œil entre les cheminots et les trains avec donc ce film Compartiment tueur qui a été votre premier film. Les cheminots qui évidemment évoquent l'engagement puisque vous n'avez cessé d'être un cinéaste engagé. Vous venez d'une famille qui elle-même
était engagée. Voilà, un citoyen engagé, parce qu'on ne peut pas vivre sans engagement dans la société. On ne peut pas être neutre, on ne peut pas être à côté, donc je participe autant que je peux avec mon cinéma ou avec moi-même dans ce qui se passe dans notre société.
Et si la France a eu la chance de vous récupérer, c'est parce que votre père était engagé, il était engagé en Grèce, il était communiste. Ce qui vous a empêché, en quelque sorte, de faire des études, puisque vous ne pouviez pas rester là-bas. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé à Paris, Costa Cavras.
Non, d'abord, pour faire des études, il fallait avoir de l'argent là-bas. Et aussi, il fallait que les parents aient des bonnes relations avec le pouvoir. Mon père était anti-royaliste, donc il avait participé à la résistance avec les communistes, qui dirigeaient la résistance à l'époque. Et il a été considéré comme communiste sans l'être. Alors, les fils ne pouvaient pas faire des études. Il fallait présenter un certificat de bonne conduite et de bonne philosophie, si je puis dire, de la famille pour pouvoir. Alors, la seule façon, c'est d'aller ailleurs faire des études. Et ailleurs, les études, c'était impossible. Et la France, pour les élèves, l'élève que j'étais à l'époque, il avait une sorte de mystère et une sorte de magie. Parce que dans les livres de l'école, on voyait soit des peintures, soit des photos, des sculptures, il disait Louvre, Paris. C'était magique. Pour nous, en France, c'était magique. Louvre, Paris, il y avait de telles belles choses. Et donc, et puis les écrivains français, qu'on lisait pas mal, comme Zola, comme les autres grands écrivains français. Eh bien, quand j'ai pu partir, j'ai travaillé, j'ai ramassé un peu d'argent, je suis venu en France pour faire des études. Et ça a été, au début, c'était très difficile. Mm-hmm. Parce que quelqu'un qui arrive à Paris sans parler la langue, et puis il ne connaît pratiquement personne, etc. C'est... Mais très vite, j'étais accueilli par les foyers des étudiants. Et ça a été vraiment une chance énorme pour moi, la France.
En arrivant à Paris, vous avez découvert un lieu, Costa Gavras, la Cinémathèque.
J'ai découvert la Cinémathèque, j'ai commencé à faire des études à la Sorbonne. Et puis, un jour, des amis, des proches allaient à la Cinémathèque. Je suis allé avec eux et ça a été magique. Parce que c'était un endroit, une salle un peu misérable, je peux dire, avec des vieilles chaises comme ça qui tapaient quand on se levait parce qu'ils faisaient du bruit. Mais il passait des films étonnants. Et le premier film, c'était Les Rapaces d'Eric von Stroheim, qu'un monsieur, une sorte de grand ours, est venu le présenter. Comme ça, il n'a pas du tout fait attention aux applaudissements, de l'enthousiasme des jeunes, parce qu'il y avait que des jeunes dans la salle, et il a dit le fait comme ça, il nous a arrêtés avec sa main, et il a parlé formidablement du film, et surtout des aventures de ce film, qui a été un film de 4 heures, qui a été coupé, recoupé par le producteur pour faire un film commercial, mais c'était impossible de faire un film commercial avec ça. C'était un grand film du cinéma, ça l'est toujours, mais c'est un film un peu à part qui ne pouvait pas attirer toutes les foules, parce qu'il n'y avait pas de happy end, comme on dit, c'était une tragédie. Et Langlois a parlé avec
oui, parce que l'ours s'appelait Langlois. C'était Henri Langlois.
Oui, pardon, c'est Henri Langlois. Et alors, je découvrais par la suite que cet homme, à l'époque, il avait créé la Cinémathèque quand il avait 22 ans. Et pourquoi? Parce que, aux années 30, en 36, des années 30, on a commencé à détruire tout ce qui a été fait pendant la période, première période du cinéma, entre le 1895 et 1930, on l'appelait le cinéma muet. Qui n'était pas jamais muet d'ailleurs, il y avait de la musique, mais les anglo-saxons, notamment les grandes compagnies anglo-saxonnes, l'ont appelé muet pour attirer les publics vers leurs films à eux, parlant, comme je disais. Et l'anglo avec des amis, comme Franju et quelques autres, Jean Mitry, ils ont décidé de sauver tous ces films muets, congetés, pour récupérer les cellulones et faire des peignes, faire je ne sais pas quel objet comme ça ridicule. Et ils ont été devant le laboratoire, ils vidaient les poubelles dans lesquels on jetait ça, ou les acheter chez les gens qui les avaient. Et ils ont créé la première cinémathèque, comme ça. C'était des pionniers extraordinaires.
Quel était votre rapport avec le cinéma Costa Gavras? Pourquoi avez-vous décidé de faire du cinéma alors que, on l'a compris, rien ne vous destinait dans votre milieu originel à faire du cinéma?
Dans le pays non plus, parce que non, on voyait des films. À la rigueur, on rêvait d'être acteur, d'être Rolf Lynn, d'être je ne sais pas quoi, Gary Cooper, ce qui était ridicule. Mais c'est en France, c'est quand j'ai découvert la Cinémathèque que le cinéma ne produisait pas. Moi, j'avais envie d'apprendre à écrire, à la littérature. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des œuvres essentielles et de grande qualité, comme les tragédies du théâtre, au cinéma... Là, je me suis dit, c'est une autre écriture, c'est une écriture par l'image, et c'est ça qui a commencé à m'intéresser. Et j'ai eu la chance aussi d'être accueilli à l'école du cinéma qui s'appelait à l'époque l'IDEC, la FEMIS aujourd'hui. Et là, j'ai découvert comment on écrit avec des images.
Vous aviez envie de raconter des histoires?
Oui, beaucoup, beaucoup, parce que j'avais une famille, j'avais un père et aussi un grand-père qui racontait des histoires sans arrêt. On était passé les nuits entières, à les écouter.
Quel genre d'histoire, hein?
Oh, de la vie quotidienne, de ce qui s'est passé dès la guerre précédente. La Grèce a vécu quelques guerres. Et puis les autres tragédies grecques, des quotidiennes, tragédies humaines. Et ça, c'était fascinant.
Vous aimez beaucoup d'ailleurs les gens qui racontent des histoires dans vos mémoires « Va où il est impossible d'aller » que vous venez de publier aux éditions du Seuil. Vous racontez par exemple votre rencontre avec Giono quand vous êtes baladé dans la campagne avec Giono. Giono vous montrait des bergeries en racontant l'histoire de la maison, l'histoire des ruines, le berger, ce qu'il avait fait là, ce qu'il n'aurait pas dû faire là.
C'était magnifique. Et Jean Giono, m'a demandé de l'appeler Jean. J'étais assistant dans son film Crésus et parfois j'allais le chercher le matin à Manosque pour l'amener au lieu de tournage et c'était des moments matinaux extraordinaires parce qu'il y avait encore des petites lumières comme ça, encore cette espèce de froideur qu'il y a le matin et tout. Il me racontait le paysage et c'était magique.
Oui, parce que votre problème, c'est qu'en fait, vous êtes né en Grèce et à chaque fois que vous arriviez devant un Français, il vous racontait que la Grèce était un pays magnifique et vous, en réalité, vous n'en saviez à peu près rien.
Non, parce que je n'avais pas voyagé, on n'avait pas les moyens de voyager. Je connaissais la Grèce en détail, on me disait « Ah, les îles, les Grecs sont formidables, etc. » Moi, je connaissais les îles pour les avoir vues sur la carte qu'il y avait à l'école, sur la carte du pays qu'il y avait à l'école.
Raconter des histoires et également s'engager au cinéma, vous avez été assistant. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a permis, Costa Gavras, de passer d'assistant? Un assistant, vous le dites, assez impliqué, c'est-à-dire que vous étiez tourbillonnant sur les films où vous travailliez à l'époque. Quel a été le déclic qui vous a permis de devenir vous-même cinéaste?
Non, a priori, je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme moi, surtout à l'époque, un étranger qui puisse faire des films en France, comme metteur en scène. Et puis, mais j'ai fait tomber sur ce livre-là de Jacques Prisot, Compartiment tueur, et je l'ai adapté comme scénario, comme un travail de scénariste qu'on fait, comme un travail scolaire carrément, sans connaître l'auteur, sans avoir des droits, etc. Et une secrétaire qui l'a tapé le scénario l'a donné au directeur du studio qui m'a appelé pour me dire faisons les films comme ça, d'une certaine manière. C'était la grande surprise, et c'est parti un peu comme ça.
Et alors, quand on entend ça, on a peur parce que vous n'aviez jamais fait vous-même un film ou au contraire, vous aviez une certaine confiance en vous, en votre capacité à mener à bien ce film?
Oui, on pense toujours qu'on veut faire un film, mais c'est une chose très difficile, un film. En plus, il y avait une autre pensée à moi. Moi, j'étais comme assistant, j'étais une bonne réputation, je travaillais beaucoup, etc. Mais quand on fait un film...
Mais apparemment, on était content de vous à l'époque.
Non, c'est fini. Si le film ne marche pas, on peut très probablement pas pouvoir faire un deuxième. Donc, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je suis capable aussi de faire un film? Et comme je sentis très vite que beaucoup d'acteurs voulaient le faire, accepter de le faire, c'est devenu encore plus dramatique, parce que je me suis dit, si je les rate avec tous ces acteurs-là, ils vont devenir tous mes ennemis.
Justement, quand vous commencez, alors, avec des gens qui n'étaient pas de petits caractères, avec Signoret, avec Montand, avec Trintignant, comment vous faites pour, alors que vous êtes... jeune homme, pour diriger des caractères semblables?
Vous savez, j'ai vu pendant ma période d'assistanale, c'est que les acteurs et les metteurs en scène, surtout les grands metteurs en scène, ils avaient une relation très intime, très proche. Et que les acteurs, en général, c'est à partir du moment où ils acceptaient de travailler avec tel metteur en scène, ils se soumettaient d'une certaine manière à lui. Comme ça, lui faisait confiance. Donc, j'ai vu qu'il fallait parler d'égal à égal. Et donc, j'essayais d'adopter cette attitude-là, et je me suis aperçu très vite que les acteurs l'ont accepté. Et là, une autoroute s'est ouverte pour des relations avec eux.
Relations avec elles. Relations proches avec Montand, avec Signoret. Quels souvenirs vous conservez d'eux? Ils occupent une place importante dans vos mémoires, Costa Gavras.
Le souvenir, c'est qu'il y a une chance extraordinaire de tomber dans cette famille et d'être accepté dans cette famille, d'être invité par eux et d'avoir fait avec eux des cas de films. Je pense qu'ils ont joué un rôle très important, non seulement sûrement pour les films que je fais, mais aussi c'est pour l'apprentissage de la vie, pour l'apprentissage de la France et aussi pour l'apprentissage de la politique, si j'ai pu dire.
Pourquoi la politique, comment cela est venu? La première fois que vous rencontrez Signoret, elle vous demande d'ailleurs si votre père est communiste.
Oui,
elle vous parle de politique tout de suite, peut-être même avant de vous parler de cinéma d'ailleurs.
Oui, bien sûr, parce que Simone Signoret s'était beaucoup engagée pendant la guerre civile grecque, pendant ces drames grecs, et elle essayait de savoir beaucoup de choses. Il y avait un philosophe, Kostas Axelos, qui était un de ses amis, et qui lui avait parlé de cette période grecque d'une manière... disons, très, très élevé, très philosophique, je dirais même. Et à moi, il m'a demandé comment était la vie quotidienne. Et moi, j'ai pu lui parler de la vie quotidienne, c'est ça qui l'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire, comment vivait le petit peuple duquel je sortais. Et c'est comme ça qu'il s'établit une sorte de relation et de confiance aussi, je dirais.
Et justement, il y a dans la Grèce actuelle quelque chose qui demeure incompréhensible. Et vous racontez ce qu'a été notamment la guerre en Grèce en quelques mots. Et l'occupation allemande a été terrible. Comment cela se fait-il, Costa Gavras, qu'aujourd'hui il y ait un parti qui se présente comme étant un parti nazi obdoré? Comment arriver quelques dizaines d'années après cette occupation allemande avec un retour sous cette forme-là?
Ça, c'est la grande stupéfaction pour moi. La Grèce a subi des choses terribles par les Allemands.
Je ne sais pas si les Français le savent tous.
Oui, ils ne le savent pas. Vous savez, la Grèce, ce qui s'est passé, c'est que la Grèce a résisté aux Italiens qui voulaient ouvrir le chemin aux nazis dépassés pour aller en Égypte. Et puis, comme ils n'ont pas pu ouvrir le chemin facilement, Hitler a envoyé des armées. Et comme ça l'a ralenti un tout petit peu pour aller en Égypte, il a puni la Grèce. Et il suffit de vous dire qu'en 1941, le matin, les gens, il y avait des chariots qui passaient pour ramasser les morts de faim. Et c'était une histoire terrible. Alors quand on voit aujourd'hui que les photos de
l'époque sont épouvantables.
Épouvantables. Et qu'on l'apprend à l'école aussi. Et qu'on voit des Grecs qui imitent le nazisme, qui veulent revenir à un système de ce type, c'est stupéfiant.
Vous avez parlé avec certains d'entre eux qui...
Non, c'est impossible de parler. D'abord, je suis un grand ennemi. Vous savez, quand mes films passent, ils passent devant, ils m'insultent, etc. Parce que j'ai pris des positions très contre eux. Et donc, il est impossible de parler avec eux. À moins d'être comme eux. Là, ils acceptent. Mais ça, c'est le grand mystère.
Va où il est impossible d'aller sont vos mémoires, Costa Gavras, mémoires d'un cinéaste. Je ne vais pas donner toutes les distinctions que vous avez eues au cours de votre carrière. Je peux quand même dire que vous avez obtenu l'an dernier le prix Consécration France Culture. C'était à Cannes. On va continuer à parler de cinéma en votre compagnie dans une vingtaine de minutes. Merci d'être là.